avions essayé de comprendre comment la considération au plan philosophique de notre dépendance à l'égard du Créateur nous fait découvrir dans le regard vis-à-vis des autres cet aspect de l'humilité, voir dans celui qui est proche de nous quelque chose que nous n'avons pas, une qualité que nous n'avons pas. Découvrir dans chaque homme quelque chose qui lui est propre et qui nous permet de nous humilier en face de lui. On se posait la question au point de vue de la miséricorde. Est-ce que la miséricorde est une vertu typiquement religieuse ou une vertu typiquement chrétienne? C'est un très beau sujet, ça. Alors, il faudrait regarder chez les stoïciens. Sûrement que c'est chez eux qu'apparaît pour la première fois, je crois, le point de vue de la miséricorde. Dans Marc Aurèle, Pensée, livre 4, on se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Et l'herméneutique est facile. Et tout aussi, tu as coutume de désirer ces sortes de choses au plus haut point. Mais tout cela marque une grande simplicité d'esprit, car on peut, à toute heure de son choix, se retirer en soi-même. Nulle part on ne trouve de retraite plus paisible, plus exempte de tracas que dans son âme. Et ça, c'est pour les ermites. C'est joli, ça. Ah, je peux pas mener ma vie contemplative, il y a beaucoup trop de bruit, c'est impossible. On ne me permet pas d'être 8 jours ermite. Alors écoutez, le stoïcien qui vous dit ça, nulle part on trouve de retraite plus paisible, plus exempte de tracas que dans son âme, surtout quand elle renferme de ses biens sur lesquels il suffit de se pencher pour recouvrer aussitôt toute liberté d'esprit. Et par liberté d'esprit, je ne veux dire autre chose que l'état d'une âme bien ordonnée. Accorde-toi donc constamment cette retraite renouvelée. Renouvelle-toi. Mais qu'il s'y trouve de ces maximes concises et essentielles qui, rencontrées d'abord, excluront tout ennui et te renverront guéri de ton irritation au milieu où tu retournes. On est irrité par la bêtise des gens avec qui on vit. Ça existe, hein. Même du temps de Marc Aurèle, et encore de notre temps. Et c'est ça qui nous agace et qui enlève en nous la paix intérieure. Nous, il faut retrouver la paix intérieure au plus intime de nous-mêmes. Et qu'est-ce donc qui t'irrite ? La méchanceté des hommes. Reporte-toi à ce jugement que les êtres raisonnables sont faits les uns pour les autres. Et à ceci que la patience est une partie de la justice. Saint Thomas dirait que la patience est une partie de la force. Non pas de la justice au sens absolu. Vous savez bien, il faut être plus fort pour être patient que pour faire comme le petit chien qui aboie tout le temps. Le petit chien qui aboie tout le temps, c'est de la faiblesse. Il a peur. L'homme patient est un homme fort. Il se tait. C'est dans le excellence qui est notre force. Donc on ne peut pas dire au sens strict que la patience est une partie de la justice, que leurs fautes sont involontaires, contre tous ceux qui, jusqu'ici, après s'être brouillés à mort, soupçonnés, haïs, transpercés de leur lance, sont étendus dans la tombe et réduits en cendres. Et calme-toi. Le calme intérieur, la paix intérieure, c'est pour un stoïcien la qualité dominante. La patience, c'est bien le grand principe qui détermine la morale stoïcienne, c'est de distinguer tout de suite ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tout ce qui ne dépend pas de nous, on doit être d'une patience absolue. Ça ne dépend pas de nous. Donc, on a une sainte indifférence. Qu'une tuile écrase mon ami, mais comme cette tuile tombe de la maison et que je n'en puis rien, je passe mon chemin. Je suis attentif à ceux qui dépendent de moi. C'est les grands principes de toute la morale stoïcienne, ça. Il faut bien comprendre ça. Ça fait comprendre ce que représente cette espèce d'apax, ce fait de ne pas se troubler intérieurement. Calme-toi enfin. Mais peut-être es-tu mécontent du lot qui t'est assigné sur l'ensemble. Remémore-toi la disjonctive ou une providence ou des atomes. Hasard. Et toutes les preuves par lesquelles on t'a démontré que le monde est comme une cité. Mais ben, si on dépend de la providence, on peut s'en remettre à la providence. Si on dépend des atomes, c'est le hasard. Mais il y a encore ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Ceux envers de qui on peut avoir une totale confiance, et ce envers quoi on ne peut pas avoir une totale confiance. Mais ce qui intéresse ton corps aura encore prise sur toi. Considère que l'intelligence ne se mêle pas aux agitations, ou douces ou violentes, du souffle, une fois qu'elle s'est reprise et qu'elle a reconnu son pouvoir. Et enfin, tout ce qu'on t'a enseigné sur la douleur et le plaisir, à quoi tu as donné ton assentiment. On ne doit pas s'arrêter à la douleur et à la souffrance, si ça ne dépend pas de nous. On ne doit même pas s'arrêter à la mort de son ami, si ça ne dépend pas de nous. Ça va très loin, vous savez. Cette attitude stoïcienne de ne regarder que son devoir, ce qui dépend de nous. Mais peut-être est-ce la gloriole qui te tourmentera. Détourne les yeux sur la promptitude de l'oubli où tombe toute chose et sur le gouffre du temps infini de part et d'autre. Sur la vanité du bruit qu'on fait, la versatilité et l'inflexion de ceux qui ont l'air d'applaudir, les limites étroites où c'est circonscrit. Toute la terre n'est qu'un point. Et sur ce point, combien est réduite cette partie qui est habitée? Et là, combien d'hommes? Et quels hommes chanteront ces louanges? Bref, souviens-toi de la retraite que tu peux faire en ce petit coin de terre qui est tien. Et surtout, pas d'agitation ni de raideur. Sois libre et examine les choses en homme de cœur. en homme raisonnable, en citoyen, en être mortel. Parmi les maximes tenues à ta portée, sur lesquelles tu te pencheras, qu'il y ait ces deux. D'abord, les choses n'atteignent pas l'âme, elles demeurent au dehors, immobiles. Les troubles ne proviennent que de l'opinion intérieure. En second lieu, tout ce spectacle que tu vois, en un clin d'œil, il va se transformer, cesser d'être. Et que de choses dont les transformations t'ont déjà en toi-même pour témoin, pense-y constamment. Le monde n'est que changement, la vie n'est qu'opinion, le pantareil. Si l'intelligence nous est commune, donc to noeron, emin koinon, si l'intelligence nous est commune, le logos, traduit la raison, le logos, qui fait de nous des êtres raisonnables, nous est commune. Ceci admis, nous est de même commun, cette raison, nous est de même commune, cette raison dont c'est le rôle de prescrire ce qu'il faut faire ou non. Ceci admis, la loi aussi nous est commune. Ceci admis, nous sommes concitoyens. Ceci admis, nous faisons partie d'un même corps politique commun. Ceci admis, le monde est comme une cité. De quel autre corps politique commun dira-t-on en effet que tout le genre humain fait partie ? C'est de là-haut, de cette cité commune, que nous viennent l'intelligence elle-même, la raison et la loi. Sinon, d'où viendrait-elle ? Comme en effet, ce qui est terrestre en moi a été prélevé sur une certaine terre. La partie liquide sur un autre élément, le souffle à une autre source, la chaleur et le feu à une autre source encore qui leur est propre. Car rien ne vient du néant, comme rien ne retourne au néant. De même donc, l'intelligence est venue de quelque part. Enfin, c'est le panthéisme, là. C'est la vision du panthéisme, du tout, qui explique tout. La mort est au même titre que la naissance, un mystère de la nature. L'une est la combinaison des mêmes éléments qui, dans l'autre, se dissolvent en les mêmes. En somme, il n'y a rien là dont on doive être humilié. Car ce n'est nullement contraire à la condition de l'être intelligent, ni au plan de sa constitution. Ces choses-là, étant données, ceux qui les font, se produisent naturellement ainsi de nécessité. C'est refuser au figuier d'avoir du sucre. En somme, rappelle-toi ceci, en un rien de temps, toi et lui, vous serez mort, et bientôt rien ne restera de vous, pas même votre nom. Supprime l'opinion, et voilà supprimé, on m'a fait tort. Supprime, on m'a fait tort, et voilà le tort supprimé. Hein, vous voyez ? Il y a une petite ressemblance à certaines méthodes de retrouver le calme en soi en supprimant toute espèce d'opinion. Le zen transcendantal. On relativise tout pour ne trouver que le noyau central. Ce qui ne rend pas l'homme pire n'empire pas non plus sa vie et ne lui nuit ni du dehors ni du dedans. De toute nécessité, la nature de l'utile est de produire cet effet. Tout ce qui arrive, arrive justement. Tu le découvriras si tu observes avec exactitude. Je ne dis pas seulement selon le rapport de conséquences, mais encore suivant la justice. Et comme si quelqu'un attribuait les lots eu égard au mérite. Continue donc d'observer comme tu as commencé. Et quoi que tu fasses, fais-le avec cette intention, à savoir d'être un homme de bien, suivant l'idée spécifique qu'on se fait de l'homme de bien. Sauvegarde cette règle en tout ce que tu entreprends. Vous voyez, la morale du bien, la morale du mal. C'est stoïcien, ça. C'est très curieux, hein, et c'est très intéressant de voir ça. Ne te range pas aux opinions que l'insolent juge vrai, ou qu'il veut te faire juger vrai, mais examine-les en elles-mêmes, pour ce qu'elles sont réellement. Il faut toujours tenir prêtes ces deux règles de conduite. D'abord, de n'accomplir que ce qu'inspire pour le bien des hommes la raison de la faculté royale et législative. Puis, de te ranger à une autre partie si quelqu'un est là pour te redresser et te faire abandonner ta manière de voir. Mais il faut que cet abandon ait toujours pour cause une certaine vraisemblance de justice ou d'utilité sociale. Et telles doivent être exclusivement les raisons déterminantes, non apparentes, que soient agréables ou glorieux. Voyez, pas beaucoup de lieux pour l'humilité. C'est la justice. C'est l'ordre de justice. C'est l'ordre de nécessité. Quelle est la place de la miséricorde? L'ordre de nécessité. Et c'est l'ordre de nécessité qui s'impose à nous. Si l'humilité n'existe pas, y a-t-il encore la miséricorde? Oui, c'est une question extrêmement curieuse et importante, parce qu'on la met pas ordinairement ensemble. Si l'humilité n'existe pas, est-ce qu'il y a encore la miséricorde? Si on considère que tout est commandé par la justice, par la loi universelle, ce qui est Marc Aurèle, est-ce qu'elle est stoïcien? Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'entrer dans cet ordre naturel des choses. Ce n'est pas la vraie humilité, vous voyez? C'est-à-dire qu'on est les limites. L'humilité est plus que regarder les limites. C'est regarder que dans chaque être, il y a quelque chose du Créateur qui n'est pas en nous. Est-ce que le panthéisme peut faire comprendre l'humilité? Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut se poser quand on voit les stoïciens et qu'on voit quelqu'un comme Marc Aurèle. Mais s'il n'y a pas un acte libre de Dieu pour créer l'âme, on est dans la moira, dans le destin. On est dans la nécessité. On est dans un ordre absolu. Et on voit les limites, on voit l'ordre de justice, mais on ne voit pas l'humilité. Vous voyez comme c'est important ça. S'il n'y a pas l'humilité, peut-on encore parler de miséricorde? Je ne sais pas. La miséricorde. Alors nous allons essayer d'entrer dans la miséricorde pour voir si un acte du Créateur, et non pas le panthéisme, me permet de comprendre la miséricorde. J'ai vu que l'acte créateur de Dieu permet de comprendre l'humilité. Je me pose maintenant la question. Est-ce que l'acte créateur de Dieu suffit pour justifier la miséricorde? C'est intéressant. Alors, il faudrait voir l'islam. L'islam a l'adoration. Est-ce que dans l'islam, il y a l'humilité? Est-ce que dans l'islam, il y a la miséricorde? Là, on est vraiment en face de l'aspect du Créateur. Pourquoi, dans certaines conceptions du Créateur, on ne voit plus l'humilité? On ne voit plus la miséricorde. Et pourquoi on devrait, dans un regard plus pur de la miséricorde, dans un regard plus pur du Créateur, comprendre l'humilité et la miséricorde? Alors, qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Et je voudrais que... C'est très important pour nous, ça. C'est pas commode, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas juger trop vite une religion qu'on ne vit pas. Parce que une religion ne peut se comprendre que de l'intérieur. Mais une religion se manifeste quand même. Vous voyez, les principes que donne Marc Aurèle pour la méditation ne sont pas des principes qui regardent l'humilité et la miséricorde. Alors, qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde est une vertu. Pour Aristote, c'est une faiblesse. Je dis que la miséricorde est une vertu. Je peux dire ça en terre chrétienne. Je sais à peu près ce que c'est que la miséricorde en terre chrétienne. Elle implique trois éléments. Pour être miséricordieux, il faut regarder la misère du prochain. Si je ne regarde jamais la misère du prochain, je ne peux pas être miséricordieux. On se défend quand on est déjà assez misérable pour ne pas être accablé par la misère des autres. Et il y a un égocentrisme en nous qui est d'une puissance extraordinaire pour ne jamais regarder la misère des autres. Notre égoïsme, c'est ça. Il y a des êtres qui voient tout de suite la misère des autres. Il y en a qui ne voient pas. Ah oui, absolument pas. Ils ont des œillères. Ah, ils voient leurs petits bobos. Ça oui. Et la misère des autres, non. Ils n'ascendent pas. La connaissance de la misère, c'est une connaissance affective. Il faut aimer l'autre pour découvrir sa misère. Si on ne l'aime pas, on ne découvre pas sa misère. Et on considère que ce sont ses limites. Ah oui, tu es très limité. Très bien. Très limité, oui. Dans ta santé, oui, c'est vrai. Tu ne peux pas marcher beaucoup. Tu es limité. Et la limite n'est pas la misère. Nous sommes des êtres limités, tous. Nous n'avons pas d'aile. C'est terrible comme limite. De temps en temps, vous rêvez parce que vous êtes oiseau, aigle. Rêver qu'on est aigle. Oui. Qu'on a un vol extraordinairement majestueux. Et qu'on prend des proies dans des serres. L'imagination peut nous faire aspirer à des longues limites. Quand on se réveille, on sait que ce n'est pas une misère que ne pas avoir d'aile. Tandis que c'est une misère de ne pas avoir reçu une éducation humaine, morale, chrétienne. C'est une misère de ne pas avoir reçu une instruction bonne. C'est une misère de ne pas avoir eu de mère aimante, d'avoir eu un père trop autoritaire. C'est une misère. Mais il y a des traces. C'est une misère de ne pas avoir de santé. C'est une misère de sentir sa très grande fragilité. Il faut sentir la misère de l'autre. Premier moment de la miséricorde. Et ce n'est pas si commode. Sentir la misère de l'autre, objectivement, être ouvert à cela. Je me souviens, c'était un père dominicain qui m'a fait connaître un de ses amis, qu'il appelait le Richard, qui habitait Zurich, et qui disait ouvertement et en toute bonne foi, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de misère. Je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Alors, ce bon père dominicain voulait que je rencontre, pour qu'il rencontre la misère. Alors, il voulait que je le rencontre. Et je lui ai posé la question, mais j'aimerais savoir le trajet de votre journée. Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Alors évidemment, ce Richard, qui ne savait pas quoi faire de ses revenus, oui, c'est bien. Il ne se mariait pas pour ne pas dissiper ses biens. Pas mal. Alors il m'a dit, le trajet de ses journées. Il m'a dit, comment voulez-vous rencontrer un pauvre quand vous sortez d'un de tel ou tel hôtel, le plus chic qu'il soit pour un autre, pour votre bureau, pour des amis qui sont du même niveau. Vous ne rencontrez jamais la misère. Parce que la misère est chassée de ces lieux-là. Pendant les vacances, vous savez bien, sport d'hiver ou grand voyage organisé, vous ne rencontrez jamais la misère. Si vous avez une journée avec moi, je vous montrerai la misère. Alors ça, il n'avait pas le temps. Parce que je l'aurais conduit dans des lieux où il y a la misère, même en Suisse. Elle existe. J'aurais mis auprès d'une petite sœur du père de Foucault pour qu'il voie tangiblement la misère. Puis si elle n'avait plus le temps, on serait parti en Afrique. Puis il aurait vu la misère en France. Voir la misère. C'est curieux comment on se gendarme contre la misère. Ça pousse tout seul. C'est pas un habitus. Ce sont des ornières. Ce sont des œillères. On se gendarme contre. Pour ne pas rencontrer la misère. Et dire en toute bonne foi, la misère n'existe plus. Grâce aux lois sociales, grâce aux assurances, vieillesse, maladie, la misère n'existe plus. J'ai entendu ça, et vous l'avez sûrement entendu. Le socialisme absolu doit supprimer la misère. Voir la misère, premièrement. Deuxièmement, voir la misère non pas en spécialiste. Parce que je peux très bien faire une enquête sur la misère. Combien de personnes se sont suicidées? Combien de personnes sont mortes de faim, mortes de froid? Combien de personnes sont malades? Et ainsi de suite, vous voyez, dans ces lieux salubres. On peut très bien faire cette enquête. Et quand on fait cette enquête, on devine la proportion qu'il y a de malades, de tuberculeux, de gens atteints du sida, puisque c'est à la mode. Ce n'est pas encore ça la miséricorde. Connaître la misère de l'autre d'une manière affective. Pour que cette misère de l'autre soit notre misère. Il faut que la misère de l'autre soit portée par nous. Autrement, ce n'est pas la miséricorde. Voir des vieillards, simplement constater qu'ils sont là à l'hospice, ensemble, qu'en meurent tant par an, qu'ils meurent de telle maladie, qu'ils s'ennuient, il faut mettre la télévision. Mais la télévision, très bien, mais ceux qui sont aveugles, ça n'a pas d'importance, ils sont si peu nombreux. Et les tests, extraordinaire, comme ça empêche l'acte personnel, individuel de la miséricorde. Il faut que la misère de l'autre devienne ma misère. Autrement, il n'y a pas de miséricorde. Et il faut qu'on fasse tout pour délivrer l'autre de sa misère. Il y a trois moments dans tout véritable acte miséricordieux. Connaître la misère de l'autre d'une connaissance affective qui fait que cette misère de l'autre devienne mienne. Et à ce moment-là, je fais tout ce que je peux pour l'enlever. Je lutte contre avec celui qui est affligé de cette misère. Je vis avec lui. Autrement, il n'y a pas de véritable miséricorde. Il y a une miséricorde passagère. Ce qui est difficile, c'est de vivre une misère continue. L'infirme à la piscine de Bethsaida. Depuis 38 ans, il est là. Et celui qui passe simplement ne comprend pas. Il dira, et cet infirme, il est tellement replié sur lui, c'est vraiment pas la peine de s'intéresser à lui. Il y a un tel égocentrisme que c'est plus la peine de s'occuper de lui. Vous voyez, comment on se donne bonne conscience, on oublie qu'il y a un homme qui est dans tel état parce qu'il n'en peut plus. Jésus a dépassé l'attitude de l'infirme à la piscine de Bethsaida pour faire un geste de miséricorde. Alors que cet infirme ne demandait rien. Il faut prévenir, il faut devancer, il faut aller au-devant. Parce qu'il arrive un certain stade de misère qu'on ne demande plus rien et qu'on ne peut plus rien demander tellement la misère nous enveloppe et nous replie sur nous. Et c'est celui-là qu'on doit voir. Alors, ces trois éléments de la miséricorde, mettre tout en cause pour délivrer celui qui est dans la misère. Comme quand une misère nous afflige, nous mettons tout en cause pour nous en délivrer. Alors, est-ce que ces trois éléments peuvent être vécues par quelqu'un qui adore l'unique vrai Dieu. Par quelqu'un qui a compris l'humilité. Dans la lumière de la sagesse créatrice de Dieu, je peux considérer que dans la providence, Dieu peut très bien aimer tel ou tel qui a de grandes infirmités, et que l'acte d'amour de Dieu dépasse tout cela, que l'acte d'amour du Créateur dépasse tout cela, et que si Dieu permet ces grandes misères, c'est pour permettre à son envoyé, à celui qui est son ami, de pouvoir exercer un acte d'amour, de miséricorde à l'égard de lui. Vous voyez, ne pouvons-nous pas faire l'analogie de cette sorte? Dieu créateur n'a pas voulu créer un monde parfait pour laisser la place à l'artiste. Si notre monde était un monde parfait, il n'y aurait plus de place pour l'art. L'art serait toujours une destruction de quelque chose de plus parfait. Tandis que Dieu a permis, a voulu, que notre monde physique ne soit pas parfait pour laisser la place à l'artiste. Alors, n'y a-t-il pas quelque chose de semblable du côté de l'amour? Dieu a permis qu'il y ait certaines grandes fragilités d'ordre affectif. Ici, exprès, je regarde dans la lumière de la création. Je ne fais pas appel à autre chose. Dieu providence permet qu'il y a de grandes misères, c'est un fait, pour permettre à ceux qui ont compris le Dieu créateur, le Dieu Père, de continuer son geste auprès de ceux qui sont misérables. Je crois que la paternité du Créateur est suffisante pour faire comprendre que Dieu nous demande d'être les uns pour les autres comme des envoyés, qui regardons la misère de l'autre pour l'aider, pour faire que cette misère soit regardée avec amour, puisque c'est la personne de l'homme, c'est la personne humaine que j'aime, que cette personne soit abîmée, que cette personne ne soit pas abîmée, cela est extrinsèque à la personne. C'est la personne humaine que Dieu, comme créateur, aime, et qu'il veut aimer toujours plus. Bien, je crois que cela est suffisant, vous voyez, pour comprendre comment il n'y a pas que la philanthropie. Il y a quelque chose de plus, que l'adoration me fait découvrir la paternité de Dieu, et me faisant découvrir la paternité de Dieu, me fait découvrir que Dieu et père de tous les hommes, et que si Dieu permet certaines misères ou les veut, c'est pour qu'il y ait d'autres hommes qui le peuvent, l'aident. Aide ces pauvres, sois auprès d'eux comme des représentants du Dieu amour qui fait luire son soleil sur les bons et les mauvais. Et là, vous voyez une attitude extrêmement grande qui, je crois, permet de parler d'une certaine vertu de miséricorde dans la lumière de la sagesse du Créateur. Évidemment, je le dis tout de suite, c'est beaucoup moins impératif que dans l'éthique chrétienne. C'est comme un appel. Alors est-ce que ça arrive vraiment au niveau de la justice, au niveau de la vertu? Ou est-ce que ça reste simplement un appel? Le Père fait comprendre à tous ceux qui sont plus proches de lui qu'il y a là quelque chose de très grand, de magnanime. Je crois qu'il y a plus qu'une ébauche de vertu, qu'une disposition. Je crois qu'il y a plus. Parce que par l'adoration, je coopère vraiment au mystère du Créateur et au mystère de celui qui n'est plus uniquement Créateur, mais qui est celui qui perd pour permettre à la créature raisonnable d'atteindre sa finalité. Je crois qu'il y a là une coopération qui me semble s'imposer au niveau simplement éthique, religieuse. Évidemment, encore une fois, ça prendra une dimension beaucoup plus grande en éthique chrétienne.